Flavio Briatore a les cheveux poivre et sel, un accent italien et surtout un très très grand sens des affaires. Exactement comme son ami Luciano Benetton, qui l'a placé à la tête de son écurie de Formule 1 en 1989. L'ancien moniteur de ski entend sortir l'écurie du rang d'outsider. À la domination technologique des Williams, l'équipe phare du début des années 1990, Briatore entend opposer les hommes. Et dans ce puzzle qu'il constitue, le jeune pilote prometteur qu'est Michael Schumacher est une pièce maîtresse.
Épisode 3, la Dream Team Benetton.
Pierre Van Vliet, on va se placer dans le contexte de 1991-1992. À l'époque, ce sont les Williams qui dominent la Formule 1. Quel est leur secret ?
Alors, Williams est une équipe qui a déjà dominé la F1 dans les années 80, avec le moteur Honda Turbo, entre autres, et même avant ça, encore à l'époque des atmosphériques. Ils ont eu un petit creux quand Honda est parti chez McLaren. Ils ont finalement fait un accord avec Renault. Renault revenait en F1 avec le moteur V10 Atmo. Et les Williams sont montés en puissance en 89-90. Et à partir de 91, effectivement, elles ont pris un peu l'ascendant sur McLaren et Ferrari, qui avaient fait l'option du V12 pour plus de puissance, mais qui à l'époque quand même était lourd, consommait plus, et on s'est rendu compte à l'usage en 92, encore plus qu'en 91, que le V10 était l'architecture favorisée par le règlement, au point que Honda a arrêté et que Ferrari a fini par lâcher le V12 pour le V10, alors que pour Ferrari, le V12 était quand même historiquement essentiel, symbolique en tout cas. Donc Williams et le V10 Renault, c'était vraiment une très belle association, parce qu'il y avait une belle osmose entre les deux partenaires, Patrick Head d'un côté, Bernard Dudot de l'autre, et il n'y avait pas de problème d'ego, il n'y avait pas de problème d'identité, c'était vraiment l'efficacité d'abord. Et puis surtout, à l'époque, en 80, même fin 90, Williams a recruté Adrian Newey, jeune ingénieur de talent qui avait fait la Leighton House de F1, qui avait déjà surpris la concurrence les deux ou trois années précédentes. Et voilà, ce cocktail-là, avec Newey, avec Nigel Mansell qui était revenu au bercail aussi, ben la Williams-Renault est devenue la référence à partir de l'été 91 et certainement en 92, où elle a dominé comme rarement une monoplace à dominer, avec aussi la technologie de la suspension active, hein, qui était la trouvaille de l'époque, même si on y travaillait depuis longtemps. Lotus avait exploité la suspension active pendant les années 80, mais sans jamais véritablement l'imposer, parce qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages, enfin bref. En revanche, avec Newey, Patrick Head et des ingénieurs vraiment spécialisés dans l'hydraulique et dans l'électronique, ils ont mis au point cette fameuse suspension active, et ça, c'était l'arme absolue en 92.
Dans les coulisses, Flavio Briatore, le manager de l'écurie Benetton, dont nous avons déjà parlé dans le dernier épisode, est en train de monter une sorte de dream team. De quoi il s'agit, Pierre Van Vliet ?
Alors Flavio, il a débarqué un peu comme un ovni en F1 deux ans auparavant, en 89, parce que son ami Luciano Benetton, avec qui il avait travaillé dans le marketing des produits Benetton, notamment ouvrir la distribution aux États-Unis. Donc Flavio, c'est un homme de marketing, un homme d'affaires. Pas du tout branché sur la F1, mais comme Luciano Benetton entretenait cette écurie de Formule 1 et qu'il avait un peu de mal à, disons, obtenir les résultats qu'il espérait, ou il se sentait un peu prisonnier des Anglais, parce qu'il avait racheté une écurie anglaise, Tolman. Il lui fallait un homme à lui, et donc il a proposé à Briatore de devenir le patron de Benetton Formula, l'écurie de Formula. Et Flavio est arrivé évidemment avec une approche tout à fait opposée au sérail de la F1 et aux gens qui faisaient partie du milieu depuis toujours. Il arrivait avec des idées nouvelles, avec une approche de marketing. Et on parle de Dream Team, c'est vrai, mais tout de suite, il s'est rendu compte que techniquement, il ne comprenait rien. Donc il s'est adjoint les services de quelqu'un très pointu, très pragmatique, très ambitieux. C'est Tom Walkinshaw, un homme d'affaires écossais, ancien pilote qui avait monté un véritable empire, hein, qui s'appelait TWE, Tom Walkinshaw Racing, qui faisait courir les Jaguars en endurance, entre autres. Et Tom avait des ambitions en Formule 1, Bernie le savait, donc John Barnard, à l'époque, avait été un moment recruté par Benetton avant que Flavio ne prenne vraiment les rênes. Barnard était caractériel, très difficile. Alors, il a quand même aider Benetton à devenir une équipe moderne avec des investissements, une usine, Enstone notamment, qui avait une autre allure que ce qu'ils avaient racheté au départ. Mais voilà, Barnard et Briatore, ça ne marchait pas. Donc, Bernie envoie Walkinshaw auprès de Briatore. Et là, la mayonnaise prend tout de suite. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Ross Brawn, par exemple, devient le directeur technique, parce que Brawn vient de Walkinshaw. Il faisait les Jaguars d'endurance avec Walkinshaw. Et que même le fait de recruter Michael Schumacher après le Grand Prix à Spa, Briatore, franchement, il n'a peut-être même pas remarqué qu'il y avait un autre pilote dans la Jordan, parce que Briatore, il était un peu au-dessus de tout ça. Mais le gars qui connaissait très bien Schumacher et qui avait compris que Schumacher était un client, c'est Walkinshaw, qui avait côtoyé Schumacher sur les épreuves de groupe C en endurance, Tom avec les Jaguars et Schumacher chez Mercedes. C'est davantage, le mérite revient peut-être davantage à Walkinshaw qu'à Briatore d'avoir recruté Michael chez Benetton.
On parle de stratégie, on peut aussi parler de tactique et évoquer le Grand Prix de Belgique 1992. Ce jour-là, Michael Schumacher bat les Williams et remporte son premier Grand Prix de Formule 1.
Oui, c'est vrai que c'est de nouveau à Spa, c'est symbolique. Hein. Le circuit de ses débuts en F1 un an plus tôt, et au bout de 12 mois, il est déjà vainqueur de Grand Prix, alors que Benetton n'était pas un team qui était habitué des podiums, en tout cas de la première marche. Hein. Nelson Piquet, qui était le leader de l'équipe, avait certes gagné un ou deux Grands Prix, mais plutôt dans des circonstances favorables qu'à la régulière. Et là, ce jour-là, Michael, en 92, après avoir déjà poussé Piquet vers la sortie, vers la retraite, fin 91, Michael fait aussi la démonstration de son sens tactique et de son habileté sur une adhérence un peu précaire, puisqu'à hein, comme toujours à Spa, il pleut. Et puis en course, il se rend compte, en suivant son équipier Martin Brundle, alors qu'ils étaient encore en pneu pluie sur une piste qui commençait à s'assécher, mais enfin à Spa, ça met du temps avant de sécher, et il se rend compte que les pneus de Brundle partent en lambeaux et que voilà, il glisse partout et qu'il perd du grip. Et donc Michael anticipe l'arrêt au stand pour repartir en slick et gagne la course comme ça, mais aussi en roulant en slick sur le gras mouillé ou sur une piste qui n'est pas vraiment sèche. Il faut dire qu'à Spa, le revêtement est très abrasif, donc on peut rouler sur une certaine humidité avec des pneus slick, mais quand même, il faut d'abord la vista, il faut l'intelligence et la capacité d'analyse et de réaction pour... voilà, parce que c'est vraiment Michael, de son propre chef, qui a anticipé le changement de pneus, et ça venait pas du team, quoi. Et c'est déjà aussi, c'est une victoire, c'est sa première victoire en F1, mais c'est déjà le signe hein, d'un grand champion qui est au-delà du pilotage, voilà, a une vision latérale du business.
Moins d'un kilomètre pour Michael Schumacher et sa première victoire en Grand Prix. Une victoire qu'on attendait depuis longtemps, qu'on pressentait, et une victoire complète et pleine qui ne souffre aucune contestation. Et victoire pour Michael Schumacher, le prodige allemand. L'Allemagne tient enfin le champion qu'elle attendait depuis de longues années, depuis même la disparition du regretté Stefan Bellof.
Justement, on parle de la pluie et des conditions difficiles. C'est un thème récurrent dans la carrière de Michael Schumacher. Qu'est-ce qui explique son aisance dans ces conditions ?
Alors, c'est vrai que dans la région où il est né, hein, dans l'ouest de l'Allemagne, là, ben voilà, hein, il pleut souvent. Et que sur la piste de Kerpen, au début, voilà, il roulait quand il pouvait rouler, quand la piste était libre, quand il y avait un quart de libre, etc. Et dès l'instant où il pleuvait, ben forcément, les candidats étaient moins nombreux pour prendre la piste. Et donc, Michael a beaucoup roulé sous la pluie et sur le mouillé à Kerpen, un peu comme on se souvient Ayrton Senna sur les hauteurs de Sao Paulo dans sa tendre enfance. Et on se rendant compte aussi que la pluie, voilà, permettait de développer ce fameux car control, ce sens de l'attaque, de la répartition des masses, de comment on joue de l'accélérateur pour sentir une auto. Et voilà, Michael a beaucoup pratiqué ça, et donc ça l'a servi toute sa carrière, parce qu'il y a beaucoup de ses exploits qui ont été réalisés sous la pluie.
Michael Schumacher, La Saga, un podcast de Pierre Van Vliet et Andy Daville, prise de son et montage Clément Rieuter, voix off Marie Lisac.